Aujourd'hui, 12 août, Agathe. 13h23. Emma se gare sur le parking près du port. J'ai cru qu'on ne serait jamais à l'heure. Je n'ai jamais vu quelqu'un conduire aussi lentement. J'aurais été plus vite en moonwalk. Elle ne sait toujours pas ce qu'on fait là, malgré les questions qu'elle a posées tout au long du trajet, mais la surprise va bientôt être dévoilée. « On va faire du bateau ?» demande Emma, tandis qu'on s'engage sur un ponton. « Quelle perspicacité !» Elle applaudit de joie. Quand elle connaîtra la raison de cette balade nautique, il n'est pas exclu qu'elle fasse des rondades. Julie et Amélie nous attendent sur le bateau. Emma les a rencontrées plusieurs fois, mais elle ignore ce qu'elles font. Elle le lui explique rapidement. Julie et Amélie sont biologistes. Une partie de leur travail consiste à étudier les cétacés qui vivent dans le gouffre de Cap-Breton. C'est un canyon qui descend à plus de 4000 mètres de profondeur, explique Julie à ma sœur. Ce qui le rend exceptionnel, c'est qu'il démarre à seulement quelques centaines de mètres de la côte. Il représente une grande biodiversité et notamment de nombreuses espèces de cétacés, poursuit Amélie. Notre rôle est de les étudier pour mieux les comprendre et de sensibiliser les gens pour les protéger. Agathe nous a dit que tu étais passionnée de dauphins ? Emma a les yeux brillants. Oui, j'ai longtemps eu un poster du Grand Bleu accroché dans ma chambre et je rêvais d'en voir, de nager avec eux. J'ai même écrit au journal de Mickey pour leur demander quelles études faire pour travailler avec les dauphins. Mais j'ai jamais eu de réponse. La déception a manifestement traversé les années. Emma fronce les sourcils en repensant à cette déconvenue. J'ai toujours su que Mickey était fourbe, je dis. On va pas nager avec eux parce qu'on veut pas les déranger, mais on va essayer d'en apercevoir, annonce Julie. Pour de vrai ? Demande Emma en me regardant. Non, c'était une blague. On va marcher sur l'eau comme Jésus. T'es prête ? Elle se marre. Je suis tellement heureuse, Gagate. J'espère qu'on va en voir plein. 14h07. Elle n'est plus heureuse du tout. Enfin, c'est l'impression qu'elle donne, mais peut-être que vomir par-dessus le bastingage la rend très heureuse. Le bateau s'arrête. Julie pose un casque sur ses oreilles et plonge dans l'eau un câble au bout duquel sont accrochés un micro et une espèce de parabole. Elle cherche à les repérer, explique Amélie. En plein été, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de pollution sonore avec les plaisanciers. Mais on peut quand même les entendre. Au bout d'un moment, Julie secoue la tête. Allons voir plus loin. 17h34. On n'a toujours pas vu de dauphin, mais la bonne nouvelle, c'est qu'Emma a arrêté de nourrir les poissons. Julie a immergé l'hydrophone à plusieurs endroits, à plusieurs profondeurs, sans succès. Emma vient s'asseoir à côté de moi. Je suis touchée de ta surprise. Oh, c'est juste parce que j'avais envie de te voir vomir. Elle pose sa tête sur mon épaule. Si tu y tiens, je peux le faire sur toi. Ça me vengera de toutes les fois où t'as fait caca dans le bain. Tu mens, tu nous inventes des souvenirs. Elle redresse la tête et fixe l'horizon. Les bleus de l'océan et du ciel se confondent. Du coin de l'œil, je la vois essuyer sa joue. Je t'aime, Gagate. Elle se tourne vers moi. Dans ses yeux, je retrouve la même lumière que sur la photo 20 ans plus tôt, avec Alex. Elle me pousse du coude. Ne me demande pas de le répéter. T'imagines pas combien ça m'a coûté. Pardon, j'ai cru avoir mal entendu. Putain, c'est jour de fête. Emma dévoile ses sentiments. Si tu voulais me faire regretter, tu t'y prendrais pas autrement. Désolée, ça m'a fait un choc. Elle rit. T'es lourde, Gagate. Pour l'appel, je te le dirai plus. C'est pas grave, je l'ai entendu. Et il y a des témoins. Les filles, vous avez entendu aussi. Julie et Amélie acquiescent en se marrant. Au même moment, à quelques mètres du bateau, un aileron fend l'eau. Puis deux, puis six. Emma est hypnotisée, les dauphins sautent, jouent autour de nous. « Mon Dieu !» murmure-t-elle. « Tu vois ce spectacle magnifique ?» Je le vois, mais c'est un autre spectacle qui m'émeut. La joie enfantine de ma sœur et son regard émerveillé. 19h17. Robert Redford est devant le portail quand on rentre. Il connaît son chemin, il n'a pas besoin de nous pour retrouver la maison de George. Pourtant, je prends le chat dans mes bras et la direction de la maison de l'amoureux de Mima. Emma me suit sans poser de questions, elle a compris. La découverte du tableau m'a plongée dans un état de sidération. Je découvrais que ma grand-mère pouvait avoir une vie sexuelle, que ses enfants n'avaient pas été livrés par une cigogne. Ça faisait beaucoup encaisser. J'ai même pas eu la force de faire le moindre commentaire à Georges. Je lui ai tendu son tableau, il nous a remerciés. Il est parti et basta. La porte du 14 donne sur la rue. Je toque avec le heurtoir en fer. Georges ouvre. Robert Redford se jette de mes bras. Entrez, il dit, comme s'il nous attendait. Il fait frais chez lui. Je viens d'ouvrir les volets, je les tiens fermés toute la journée, explique-t-il. On le suit le long d'un couloir et on débouche dans un vaste salon. Des meubles massifs sont posés sur de la tomette rouge. Il nous fait prendre place sur un canapé en cuir brun. « Vous voulez boire quelque chose ?» Emma demande un verre d'eau. J'accepte un verre de vin. Pendant qu'il part nous servir, ma sœur s'assure de mes intentions. « Tu sais que c'est un vieux monsieur, Agathe. Pourquoi tu me dis ça ? Sois gentille avec lui. J'ai l'habitude de pas être gentille. Ça peut t'arriver. » J'ai pas le temps de répliquer. Georges revient et s'assoit face à nous. « J'imagine que vous avez des questions. » La première franchit mes lèvres avant que mon cerveau ait le temps de la mettre en ordre. « Vous étiez ensemble ? Avec Mima, je veux dire. Ou vous avez des portraits nus avec toutes les voisines ?» Il rit. « Je suis ennuyée de trahir son secret, votre grand-mère y tenait beaucoup. Mais le manque est insoutenable et je n'ai personne à qui parler d'elle. Pourquoi elle nous a rien dit ?» Emma me lance un regard noir. Je prends conscience de mon ton abrupt et je tente de me rattraper. « Pourquoi elle ne nous a rien dit, s'il vous plaît ?» Votre grand-père était décédé depuis plusieurs années quand nous sommes tombés amoureux. Mais elle savait à quel point vous l'aimiez. Elle craignait de vous blesser. Le temps est passé et à plusieurs reprises elle m'a annoncé qu'elle allait vous le révéler. Mais finalement elle n'a jamais trouvé le bon moment. Il plonge son regard dans le vide, semble rejoindre ses pensées. On attend en silence, suspendu à ses souvenirs d'une Mima qu'on ne connaissait pas. Il finit par reprendre. Vous savez, elle a résisté. Elle a lutté contre ses sentiments. Elle refusait d'aimer un autre homme que votre grand-père. Mais l'amour est plus fort que la volonté. Nous avons été heureux. Oh oui, infiniment heureux. La voix de Georges vacille. Ma gorge se noue. Imaginez Mima en femme amoureuse me submerge. Je suis heureuse de ce bonheur que je n'ai pas su. Vous n'avez jamais voulu vivre ensemble ? Demande Emma. Nous y avons songé plusieurs fois. Mais notre relation était tellement parfaite ainsi que nous redoutions de l'abîmer. Nous pensions avoir le temps. Les années ont défilé à une vitesse insensée. Cependant, nous avions une règle à laquelle nous n'avons jamais dérogé. On se voyait tous les jours. Pour des heures ou pour quelques minutes. Impossible, je rétorque. J'ai vécu chez elle pendant des années et même après, je venais la voir hyper souvent. Je l'aurais forcément su. Georges me regarde comme si je venais de réaliser que le Père Noël n'existait pas. Il n'y a pas eu un jour où on ne s'est pas vu, insiste-t-il en souriant. Ma sœur se marre. Ça lui ressemble tellement de nous laisser une surprise en héritage. 20h14. On quitte Georges avec la promesse de garder le contact. Je l'aime bien, annonce Emma en marchant vers la maison de Mima. Je crois que moi aussi. Pas trop vexée ? Bien sûr que non. Elle me connaît assez pour savoir que je mens. Bien sûr que je suis vexée. J'aurais voulu que Mima me parle de Georges, qu'elle me confie ses secrets comme moi les miens. J'aurais aimé qu'elle ne me mente pas, qu'elle s'épargne cette culpabilité. Qu'elle m'épargne la mienne, celle que j'éprouvais chaque fois que je la laissais. L'imaginer seule chez elle me comprimait le cœur. J'avais le sentiment de l'abandonner. J'aurais été heureuse pour elle. Ce qui me blesse le plus, c'est qu'elle ait pu en douter. En passant devant chez les Garcia, j'aperçois Joachim dans le jardin. Il m'adresse un signe de la main. Moi aussi. Mais avec un seul doigt.